Je vais introduire ces conclusions. Je vais introduire cette conclusion en vous remerciant d'être venu et resté jusqu'au bout tout d'abord. Puis remercie aussi toutes les personnes qui sont intervenues au cours de ces deux journées. Avec Sophie, on a tissé deux fils, on va dire. Deux fils qui nous semblent regrouper l'ensemble des interventions. Ces deux fils sont donc le corps dont je vais parler et la médiation dont Sophie vous parlera juste après. Alors on va faire très bref. Donc en ce qui concerne le corps, la plupart des interventions ont questionné la présence, ont montré que le numérique, ce qui se joue avec le numérique, c'est quelque chose qui est de l'ordre. Donc vis-à-vis du corps, à mon sens, c'est quelque chose. Le numérique donc reconfigure, joue et transforme quelque chose pour ce qui a trait à la présence. Et donc on l'a vu sous plusieurs angles, sous l'angle de la disparition du corps, donc la disparition quand des algorithmes de trading à haute fréquence remplacent les traders, comme l'a montré hier Marielle Pinsard, la disparition aussi, ou sa dissolution peut-être, dans le corps augmenté, dont nous a parlé Lucille Coquelin, sa disparition ou son remplacement dans un devenir machinique, dans une uniformisation du corps qui se cale sur qui se cale sur le dans le cas des émotions, en tout cas sur les plateformes, les émotions sous forme d'emoji avec les plateformes dans l'intervention que j'ai faite. Donc la disparition de remplacement, mais on a aussi vu que le numérique pouvait être un support d'appropriation du corps. Qui pouvait aider à la construction de soi dans l'intervention de Tamara ce matin. Le numérique pouvait servir d'analyseur, on dirait comme ça, en analyse institutionnelle, donc il peut permettre il sert comme support, le numérique peut servir comme support d'appropriation du corps, et donc il peut être un moyen, un médium de connaissance de son propre corps, un médium de la connaissance de soi. On a vu aussi avec Angélique et Barbara que le numérique pouvait être aussi un support pour mettre en parole et encore des images qui avaient été vues justement. Et enfin, on a aussi vu avec Yasaman que le corps était un lieu aussi où s'ancraient des savoirs, c'est-à-dire qu'il était parfois nécessaire de percevoir pour comprendre. Et il me semble important de préciser ça à un moment où on aurait tendance justement à oublier une partie du corps. On aurait tendance avec le numérique à oublier le corps, à croire que tout est encodable, et donc à mettre de côté tout l'aspect sensible du corps. Et donc du coup, ça me semblait important de rappeler cette nécessité du sentir, du percevoir, qu'un être humain n'est donc pas réductible à un cerveau, mais qui a aussi une part sensible qui est importante, y compris dans des processus intellectuels. Voilà, je laisse la parole à Sophie.
Merci beaucoup. Adrien, donc on fait ce petit exercice de tisser un lien un peu entre nos trois demi-journées très, très riches que nous avons pu, grâce à vous tous, construire. Moi, je dirais que voilà, on peut tisser aussi le lien autour des médiations. Le numérique transforme nos vies en société par la nature des interactions, par les recommandations des algorithmes, mais aussi, ce qui m'a frappé aussi en vous entendant là cet après-midi, évidemment, c'est par les horizons et les inspirations qu'il véhicule malgré lui ou volontairement, et notamment donc cet imaginaire du numérique qui circulait fortement aujourd'hui, cet après-midi, d'une façon assez ambivalente, et je dirais peut-être que c'est à la fin de la table ronde qu'on s'est rendu compte de l'ampleur de ces ambivalences. C'est-à-dire à la fois l'imaginaire de la démocratisation, mais finalement chacun met dans cette notion ce qu'il veut bien entendre, de démocratisation culturelle, ou d'horizontalisation des interactions, si je me permets ce néologisme, avec l'idée que ce qui est horizontal, ça serait forcément formidable. Et pour nous qui sommes donc branchés, on va dire, en information communication, sans information des communications, c'est très paradoxal, puisque ce qui se passe aujourd'hui, à une échelle tout à fait inédite, c'est tout à fait le contraire, c'est-à-dire c'est un niveau de concentration du capitalisme des plateformes numériques à un niveau tout à fait exceptionnel.
Et donc, voilà, et donc, notre, bah, ce qui se passe tout dans le même temps, c'est la dépendance aux GAFAM. Et donc, j'étais frappée d'ailleurs à la fin hein, de la table ronde sur le fait que, finalement, s'il y a un appauvrissement des lieux culturels hein, et du ministère de la Culture, des subventions notamment au spectacle vivant, qu'est-ce qui se passe? Bah, une des propositions que vous avez faites en disant « mais c'est à la portée de tout le monde, finalement, c'est le low-tech ». Mais qu'est-ce que c'est que le low-tech? C'est finalement que les industries, enfin pas les industries justement, ministère de la Culture, les institutions culturelles deviennent un relais de WhatsApp, de Skype. Je critique pas du tout, hein, sur le fond, on se débrouille et on bricole, hein, mais je veux dire, ça interroge quand même de se dire que la solution low cost, c'est d'utiliser d'installer, excusez-moi, hein, c'est pas du tout une critique, c'est juste la nécessité d'une réflexivité là-dessus, et je trouve ça important aussi de pouvoir le faire avec des acteurs tels que vous, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire j'ai aucune critique sur WhatsApp en soi, mais je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas, pour le dire autrement, plus positivement, que les politiques nationales françaises qui ont mis depuis longtemps la culture au centre de leur... De leur modèle politique, hein. La culture c'est pas n'importe quoi en France, hein. Et que au final quand il y a une réduction des budgets, qu'est-ce qu'on sait faire? Ben, on va savoir utiliser davantage, propager davantage les GAFAM, alors qu'il y aurait certainement là une piste d'innovation, au contraire, hein, à créer, et c'est urgent, hein, parce qu'on peut pas à la fois, enfin, je veux dire, en tant qu'individu on a le droit à toutes les incohérences. Moi, je suis vraiment très claire là-dessus, mais en tant que pouvoir public, non. Voilà. En tant que pouvoir public, c'est le lieu, quand même, de la rationalité, de la réflexivité. Et du coup, voilà, pourquoi pas réinterroger cette question-là. Je pense qu'aujourd'hui, en plus, avec le niveau de questionnement, au niveau le plus élevé des politiques européennes, des politiques publiques françaises, sur ce que c'est que la donnée, etc. Même notre secrétaire d'État au numérique se pose des questions sur les données personnelles, etc. Bon, ben, il serait temps d'en tirer quelques conséquences utiles pour tous.
Je reviens de faire la partie sur les données, ça fera écho à l'introduction que j'ai faite sur ce sujet. Exactement, on a une position très claire par rapport aux actions de la Cour des comptes et leur absence totale de vision sur la question de la data. Et du coup, d'ambition.
Voilà, et on en a besoin, je veux dire, et ça peut avoir des tas d'usages sociaux, justement, qui sont assez urgents. Alors, juste les médiations, donc voilà, donc ce qui frappe aussi, hein, c'est que ces journées, alors avec des champs disciplinaires très très différents, mais c'était fait exprès, sont venues réactiver la question des médiations autour du numérique, hein, puisque... voilà, les médiations peuvent passer par le numérique, mais c'est aussi des médiations autour du numérique, parce qu'en fait, le numérique vient poser des questions, à la fois du fait de son imaginaire, mais aussi du fait de son fonctionnement, vient nous poser plein de questions sur le fonctionnement du social, de la société elle-même. Hein. Alors, je dirais deux points. La question, donc, ce qui était frappant et qu'on peut appliquer, même si les acteurs sont très différents à chaque fois, mais le numérique, enfin la numérisation de la société, vient nous placer quand même dans une situation de réflexivité. Hein. Donc, ce qui était frappant cet après-midi, c'était ça, réflexivité des institutions. Hein. Finalement, le numérique, c'est l'occasion de se demander comment les publics fonctionnent, qui est quand même une question que, voilà, qu'on aurait pu se poser avant, qui n'est pas liée au numérique. La question des usages, hein, qui vont être faits du numérique, donc que vous avez proposé chacune de vos façons. La question aussi du fonctionnement de l'institution elle-même. Est-ce que ça va changer le management de l'institution? Dans quel sens, etc. Donc, tout, voilà, donc réflexivité, je dirais, des institutions. Hier, on avait une réflexivité des artistes qui se posaient la question de leur propre fonctionnement, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand j'ingurgite 10 épisodes de Netflix à la suite, dans quel état corporel et émotionnel je me retrouve, et qu'est-ce que j'en fais ensuite, qu'est-ce que je réponds, quelle est la proposition artistique que j'en fais. Nous avons eu aussi le questionnement de la réflexivité des jeunes. Alors, pourquoi les jeunes? Est-ce qu'ils sont plus réflexifs, moins réflexifs? Moi, j'ai tendance, parce que je travaille beaucoup sur les jeunes, à mettre en évidence, mais c'est aussi l'interaction hein, qui produit ça, donc mettre en évidence la réflexivité possible, bien sûr, hein, avec les jeunes. Et là, on a eu plusieurs propositions qui mettaient en, voilà, qui mettaient en espace, enfin, qui permettaient, voilà, qui donnaient une occasion à cette réflexivité de se produire. Donc, c'était la performance, donc avec Fardine et les étudiants qui sont encore présents. Hein, voilà, comment quelle mise en scène fait-on de la réflexivité et comment on met en quelque sorte aussi en œuvre, hein, grâce à celle, à travers la violence de votre performance, comment on met en œuvre aussi du côté des publics, hein, la violence de l'impact du numérique, réflexivité aussi qui a été mise en œuvre par les psychologues, hein, avec des publics plus, des jeunes plus vulnérables. Ce qui est frappant, hein, c'est que ces médiations, elles nécessitent, et c'était très visible aussi dans l'intervention Madame Landé sur la médiation culturelle autour de l'Opéra de Rennes, c'est que ces médiations, elles produisent un ralentissement du rapport au contenu, que ce soit le contenu culturel, le contenu médiatique, etc. Elles opèrent un ralentissement, et voilà. Ralentissement dans le rapport aux œuvres, ralentissement dans le rapport aux émotions personnelles. Et elles permettent de recentrer, hein, le spectateur, qui est en même temps le participant de ces médiations, de se recentrer soit sur le dessin animé, c'est ce que nous expliquait Tamara Guénoun ce matin, soit sur le spectacle vivant, ce que Manaël Landé a fait ce matin. Et finalement, ce qui se joue en fait, hein, autour du numérique, principalement, c'est la question de l'économie de l'attention. Hein, c'est pas du tout, j'invente rien du tout, mais c'est particulièrement frappant, hein, que l'objet dans lequel, les résistances qui se construisent, hein, positivement autour des médiations, c'est bien par rapport à cette question de l'économie de l'attention, hein, de la façon dont les industries culturelles numériques violentes, enfin nous violentes à travers leur conception, leur dispositif d'économie d'attention, et comment il nous faut, dans la société, construire des médiations longues pour arriver à nous réapproprier, hein, jusqu'à nos émotions corporelles, etc. Voilà, médiations qui se produisent, voilà, dans le temps et qui viennent finalement... et qui viennent révéler aussi les inégalités, les fractures sociales qui sont déjà de toute façon présentes dans la société, mais que le numérique vient quelque part raviver ou revisibiliser si on prend le temps de bien vouloir regarder ce qui se passe de près. Je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup.
Si vous voulez, il y a encore du café et des gâteaux, et vous êtes très volontiers invités à ce petit goûter.
Merci.